On est très heureux de vous revoir après 3 semaines d'absence et aussi de vacances. Parce que nous étions dans les Landes, on a bien profité à l'océan, à la plage, et ça nous a beaucoup, beaucoup fait du bien. Et merci pour vos prières aussi. Et nous avons, en tout cas, nous nous sommes réjouis ensemble et aussi, nous avons pleuré ensemble face à des nouvelles tragiques que nous avons connues au niveau de l'église des Têtes. Nous avons prié avec eux, nous continuons de prier avec eux jusqu'à la cérémonie le 15 septembre, je pense. On pourra encore continuer à soutenir la famille dans nos prières. Mais cela est aussi mêlé d'une espérance, parce que l'espérance est plus forte que tout, est plus forte que la mort, est plus forte que la détresse, est plus forte que les épreuves, quelle que soit la nature des épreuves. L'espérance que Christ a semée en nous est plus forte que tout ce que nous pouvons vivre au cours de notre voyage sur la terre. Nous ne sommes qu'en voyage. Donc, ce matin, comme nous avons, pendant les vacances, pris une décision personnelle de retravailler sur les personnages bibliques, c'est plus simple et en même temps, ça nous permet de mieux nous exhorter et d'avoir cette grâce de pouvoir continuer à vivre notre foi selon ce que Dieu veut. Et j'aimerais ce matin nous inviter à lire une histoire dans le livre de Genèse qui concerne une famille, pas un personnage biblique, mais l'histoire d'une famille qui craint Dieu, qui aime Dieu et que Dieu va utiliser pour l'histoire du salut. Et nous allons essayer de voir comment cette famille a pu vraiment être un instrument dans la main de Dieu, malgré les défaillances, malgré les difficultés, malgré tout ce qui est arrivé. Donc, Genèse 25, versets 19 à 33, et parallèlement, nous pourrions lire à la fin Romains 9, versets 10 à 14, que Paul a pu reprendre cette histoire pour expliquer l'importance de la grâce, de l'élection ou de la prédestination. Genèse 25, le verset 19 à 33. Lisons. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Laman l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria: Si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivée là? Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit: Ils sont deux peuples dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un des descendants sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les deux garçons grandirent Ésaïe 20 et habile et devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit, « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom d'Édom, le roux qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit, « Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit, « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob saisit et insista, « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Voilà l'histoire d'une famille qui était tranquille, un couple, Isaac et Rebecca, qui vivaient après leur mariage, qui souhaitaient avoir des enfants, mais que Rebecca était stérile. Isaac eut la joie de voir sa femme Rebecca enceinte, accouchée de deux garçons, deux beaux jumeaux, suite à la supplication en faveur de celle-ci. Le verset 21 nous dit qu'il a prié. Ces deux garçons étaient prédestinés à représenter deux nations dont l'une va être puissante et assujettir l'autre. Paradoxalement, dans l'histoire ou dans le Proche-Orient, c'est toujours l'aîné qui est vraiment, qui prend les devants, qui prend le leadership et qui est considéré par les deux parents et qui reçoit la bénédiction quand ils ne sont pas là pour continuer à conduire la famille. Mais à la naissance des deux garçons, les deux vont se forger un caractère, chacun d'une manière différente. Ésaü devient un habile chasseur. Il allait dans les champs apporter du gibier et cela faisait plaisir à Isaac. Et par contre, Ésaü était vraiment de caractère contraire. Il était tranquille à la maison auprès de maman, laver les assiettes de maman, apporter le linge, voilà, faire la vaisselle avec elle. Et vraiment, apprenait aussi à préparer de la soupe ou peut-être des aliments vraiment qui peuvent nourrir la famille. Voici deux caractères opposés. Lui qui est citadin et qui est dans le foyer et l'autre qui est dans la campagne, dans la brousse et qui fait aussi son travail, sa passion de chasseur. Cet aperçu de la famille va nous conduire à voir un élément essentiel, l'affection, qui va être portée vers Jacob et l'affection qui va être portée vers Ésaü va jouer un grand rôle dans l'histoire du salut et même dans nos familles aussi. Souvent, ça peut être bénin, banal, que l'affection des parents, voilà, c'est mes enfants, mais bon, l'aîné obéit, donc je l'aime plus et je le préfère. Et le cadet n'obéit pas, ne reste pas à la maison, il ne fait pas ce que je veux. Donc, je préfère l'autre, l'un que l'autre. Ces éléments qui constituent la vie de cette famille nous amènent à nous poser la question dans nos familles, dans l'histoire de la famille des auteurs bibliques et de ceux-là que Dieu a utilisé pour le salut de notre monde, de nous tous, et peut-être de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Qu'est-ce que notre rôle, quel est notre rôle en tant qu'humain dans l'action, dans l'attitude qui entre dans le plan du salut? Est-ce que l'homme a une action d'une manière humaine qui peut influencer le salut d'un homme, d'une femme, d'un enfant ou l'avenir d'un peuple? En nous posant cette question, nous allons essayer de voir des points importants. D'abord, Dieu est souverain. Cette affirmation est importante du fait que la souveraineté de Dieu va jouer d'une manière décisive dans l'histoire de cette famille. Et deuxièmement, nous voyons que l'homme est responsable. La responsabilité d'Isaac, de Rebecca, de Jacob et aussi d'Ésaü va jouer également dans le plan du salut. Et finalement, nous allons essayer de conclure en tirant des applications. La vie de Rebecca, la vie d'Isaac, la vie de Jacob et la vie aussi d'Ésaü, qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui concernant nos propres familles et aussi concernant la vie de l'Église qui est comme une famille et aussi d'une manière générale dans notre espérance future. Donc, Dieu est souverain. La sérénité de Rebecca n'a pas conduit Isaac dans une fatalité. Isaac était confiant en son Dieu, comme son père Abraham. Abraham aussi avait une telle confiance en Dieu qu'il était prêt à tout. Je pense que Isaac a hérité d'une manière la foi de son père parce qu'il voyait vivre son père d'une manière réelle sa foi, d'une manière authentique sa foi. Et je pense peut-être dans cette histoire que Isaac, pendant que sa femme était stérile, peut-être il a entendu Abraham lui raconter. Tu sais, ah oui, c'était difficile que tu viennes au monde parce que maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Et peut-être Abraham lui rapportait aussi, racontait l'histoire de Morija, là où il lui a conduit à la montagne par la direction et la décision de Dieu pour être en sacrifice et que Dieu a intervenu d'une manière miraculeuse pour le sauver. Et donc cette foi qui a influencé Isaac était toujours là dans son épreuve, et c'est nous aussi aujourd'hui, ça nous parle aussi. Nous pouvions peut-être être dans une épreuve difficile, dans un moment, dans un contexte difficile, que ce soit en famille, que ce soit en église, que ce soit peut-être dans notre vie, au service ou ailleurs, nous pouvons être dans une situation, oui, d'épreuve. Et là, la foi doit jouer son rôle. La foi doit mûrir. La foi doit voir loin, voir la souveraineté de Dieu. Dieu est puissant, il est au-dessus de tout. Il est capable, rien ne lui est impossible. Et d'ailleurs, il nous a parlé dans 1 Corinthiens 10, verset 13, en disant que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si une épreuve nous arrive, que ce soit la stérilité, que ce soit la persécution, que ce soit les problèmes du travail ou les problèmes de personne, il n'y a rien qui nous arrive et que Dieu et que nous ne pouvons pas supporter. Il ne permettra même pas que ces choses nous arrivent. Si quelque chose comme épreuve nous arrive, le Seigneur prépare aussi un chemin pour que nous puissions sortir victorieux et triomphant à sa gloire.
Amen.
Gardez la foi, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous sommes, nous traversons, nous vivons. Dieu nous conduit, nos mains sont dans sa main, ferme. Il nous relève, il nous fortifie, il nous guide, il nous accompagne, il nous donne sa foi afin que de nous conduire jusqu'au bout. Dieu a décidé souverainement de la destinée des deux garçons avant même la naissance. Dieu a fait un choix libre sans consulter Isaac ou Rebecca de l'avenir d'Ésaü et de Jacob. Dieu, même avant, s'ils étaient nés et se comportaient, et Isaïe avait un comportement peut-être bizarre, et que Jacob avait un bon comportement, on pouvait dire, peut-être, c'est parce que chacun s'est bien comporté que Dieu les a choisis. Mais ici, nous voyons que même avant la naissance, au moment que les enfants sont au sein de Rebecca, quand Rebecca est allée consulter l'Éternel lui a dit, il y a deux peuples en ton sein. Et ces deux peuples, j'ai choisi d'aimer Jacob. Peut-être nous, aujourd'hui, on pourrait poser des questions, mais pourquoi Dieu prend un, choisit un pour aimer un et écarter l'autre. On peut beaucoup polémiquer dessus. On peut beaucoup débattre dessus. Mais c'est un mystère. Dieu choisit d'aimer. Dieu choisit librement de prendre quelqu'un et d'écarter l'autre. Dans la mort aussi, c'est pareil. Dieu choisit librement de les prendre ou de donner vie. Cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas ni de nos comportements, ni de nos actions, ni de ce que nous sommes. Dieu agit d'une manière souveraine, indépendante, d'une manière indépendante de nous. De ce que nous vivons, de ce que nous nous comportons et de ce que nous savons. Dieu agit librement. Le choix libre et souverain de Dieu en Jésus-Christ est juste et pur. Le choix d'Isaac et Rebecca était peut-être motivé par des convenances personnelles du point de vue humain. Nous voyons ici que Rebecca était aimait Jacob parce que simplement, voilà, c'est un garçon qui est auprès de moi. Il fait la vaisselle, il fait le ménage, il est un garçon docile, qui est tranquille, qui est calme, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui est vraiment sympa. Et naturellement, nous portons nos affections en fonction du comportement ou de la manière dont l'enfant ou nos proches ou nos familles, la façon dont ils se comportent envers nous. Et ça, c'est naturel, c'est humain. Et l'homme choisit d'aimer en fonction de ce qu'il reçoit, peut-être. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Et là, c'est là que, là où Dieu veut nous conduire, un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de ce que nous comportons, la façon dont nous agissons. Dieu nous aime, point. Dieu nous a choisi, il nous a aimé, il nous a choisi, c'est fini. Ce n'est ni par nos comportements, ni par nos façons de vivre que Dieu a vu pour nous aimer et pour nous choisir. Jacob aimait le gibier. Ah oui, le gibier sauvage, la viande sauvage. Ah là, c'est bon, ça fait du bien. Quand on fait un bon barbecue avec un facochère sous le manguier ou sous le filao, ah, ça fait du bien avec un beau soleil. Ça fait du bien, non? C'est ce que Jacob aimait, moi aussi, et vous aussi. Je pense que ceux qui aiment le barbecue savent que c'est bien d'aimer. Ça fait du bien. Alors, il a porté son affection naturelle, humaine, sur Jacob. C'est un bon garçon. Toi, je t'admire. C'est bien, continue comme ça. Et Dieu, lui, son affection est inconditionnelle. Et n'a pas de condition. C'est pourquoi il dit dans Exode 33, verset 19 à 20, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Lorsque Moïse lui a demandé, « Dieu, ah oui, tu as fait des exploits. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Tu as fendu la mer en deux. Tu nous as nourris dans le désert. Ah, quel Dieu merveilleux tu es. J'aimerais te voir. » Et Dieu lui dit, non, tu ne peux pas me voir vivant. C'est après la mort. C'est lorsque tu vas laisser ce corps et que tu vas te reposer, c'est là devant moi que je pourrai te voir et que tu pourras me voir face à face. Et Moïse dit, ça ne me suffit pas. C'est Dieu merveilleux, j'aimerais le voir en vivant, d'une manière vivante. Et Dieu accepte comme si c'était d'une manière, une prière exaucée au-delà de ce que Moïse pensait. Dieu accepte de se présenter à Moïse, même si au niveau de son dos. Dieu accepte. Et lui prévient que lui, il fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que tu es Moïse que je te fais cette grâce. Ce n'est pas parce que tu as obéi à la loi. Ce n'est pas parce que tu as fait sortir le peuple d'Israël dans les déserts pour Canaan que je te fais cela. Mais retiens ce principe, la grâce. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Dieu est souverain. Et dans la souveraineté de Dieu, Dieu utilise même les actions humaines. Nous repérons dans notre texte deux actions, celle de Dieu et celle des hommes. Les hommes tels que Rebecca et Isaac, et aussi Jacob et Ésaïe, quatre personnes. Dieu utilise toutes ces actions-là pour sa gloire. Rebecca, qui agit en fonction de sa convenance personnelle et peut-être en saisissant la direction de Dieu, nous voyons que Rebecca a consulté Dieu. Il connaît, il sait, Dieu lui a parlé clairement, ses deux enfants, voici leur avenir. Il le sait. Elle le sait plutôt, ce que les deux enfants vont devenir. Peut-être elle agit en fonction de ça. Elle a vu la direction de Dieu. Elle ne peut pas s'opposer à la direction de Dieu, donc elle l'accompagne. Elle dit, gloire à Dieu, c'est toi qui as voulu, j'accompagne ce que tu veux. Isaac, nous voyons Isaac, peut-être Rebecca lui a donné un débriefing de sa consultation, peut-être pas, peut-être elle l'a gardé seule. Mais nous voyons que Isaac aussi va agir en fonction de ses convenances personnelles. Mais peut-être on peut dire que par ignorance. Peut-être il ne sait pas l'avenir des enfants, donc il agit en fonction de ce que j'ai deux enfants, donc il fait un choix de préférence, donc j'agis en fonction de ma préférence. Les deux concernés seront l'un et l'autre influencés par leurs responsabilités individuelles face à des situations auxquelles ils vont faire face. Jacob, lui, peut-être sa maman, il ne connaît rien et connaissait rien de son avenir, mais il agissait en fonction des circonstances qui venaient devant lui. Et Ésaü, nous voyons, aussi agissait en fonction des circonstances qui venaient devant lui. Et nous allons voir que le comportement des deux vont déterminer la responsabilité de chacun. Ésaü, lorsqu'il part à la chasse, il revient, il avait faim, et il voit Jacob avec des lentilles. Ah, c'est bon, c'est beau, ça sent bon. Et il va dire, ah, quand même, donne-moi à manger. J'ai faim. Et Jacob, qui était aussi peut-être intelligent, on peut dire, il est très intelligent, très, très intelligent, raffiné. Il a dit, ah, d'accord. OK, maintenant, je sais que c'est le bon moment. Tu as faim? Si je ne te donne pas à manger, tu vas pleurer? Tu n'as pas le choix. Allez, on fait un deal. Tu me donnes ton droit d'aînesse et moi, je te file les lentilles. Et Jacob était vraiment quelqu'un, c'est un commercial, hein, il savait vendre son truc. Et nous, en regardant tout ça, on voit que Ésaü, il a réfléchi aussi. Mais le problème est là. Il n'a pas considéré que le fait d'être aîné avait des conséquences. Le fait d'être l'aîné de la famille, tu portes une grande responsabilité de l'avenir de la famille. Et lorsque le papa Isaac va aller à la tombe, avant d'aller, il va mettre sa main sur toi pour dire « Je te bénis ». Comme Moïse a béni, comme les autres ensuite vont bénir les enfants dans la culture du Proche-Orient, particulièrement d'Israël. Et il a dit, ça ne sert, c'est encombrant, le fait d'être aîné, c'est trop encombrant pour moi, c'est lourd. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien. On lit dans le texte, il dit que à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Dieu t'a donné la grâce d'être aîné, d'être responsable de quelque chose. Et tu dis, en fait, ce n'est rien. Ce n'est pas la chose que tu as méprisée. C'est Dieu lui-même qui t'a donné cette occasion, ce privilège, cette grâce qu'il t'a donnée, c'est ça, son appel. Il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a aimé, il t'a fait vivre dans une famille, dans une église, il t'a placé quelque part. Et tu dis, en fait, c'est le truc des hommes, ça ne sert à rien. Nous voyons ici que les deux, chacun avait sa responsabilité et nous allons voir à la fin de l'histoire que Jacob a dit, non, tu ne vas pas me dire oralement comme ça. Oralement, ça ne suffit pas. Si tu me dis oralement sans signer, ça ne sert pas, ça ne compte pas. Ça, c'est la modernité. Jacob était en avance avec une intelligence raffinée. Il a dit, allez, tu fais un serment, tu signes, tu dis, tu donnes ton accord. Et lorsque tu donneras ton accord par signature, par serment, alors c'est valable. Et il l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, il a pris sa signature, il l'a empoché. Et maintenant, nous allons voir derrière que tout ce qui va suivre, Isaac a eu les signaux au moment qu'il voulait bénir Ésaü. Jacob s'est mis les poils et il s'est approché, il a apporté du gibier bien cuit, bien rôti. Et il a senti l'odeur. Non, ça, ce n'est pas l'odeur d'Ésaü. Ce n'est pas la voix d'Ésaü, ça. Ce n'est pas... est-ce que ce n'est pas Jacob? C'est Jacob. Oui. Jacob a inversé. Il est allé jusqu'au bout. Il a signé. Il a pris le droit d'aînesse. Et ensuite, il a renversé la situation en allant prendre des bénédictions, malgré les signaux. Souvent, nous, spirituellement, nous voyons les signaux. Le Seigneur nous donne la grâce de sentir des choses, de voir les choses arriver. Mais nous disons, peut-être je me trompe. C'est là aussi Dieu veut nous interpeller, d'être vigilants. Et lorsqu'il nous envoie les signaux, par son esprit, par sa grâce, par son amour, ressaisissons le bout et essayons de voir les choses comme Dieu veut que nous les voyons, les affronter. Si Isaac avait saisi l'occasion en disant, non, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü, ce n'est pas l'odeur d'Ésaü, je connais l'odeur, je connais aussi la voix d'Ésaü. Le problème allait être réglé, mais il a dit, bon, peut-être c'est ça, peut-être je me trompe. Il a continué sur la voie qu'il a choisie. L'action maintenant de Dieu, par-dessus tout, l'action de Dieu sera déterminante, car le plan de Dieu n'échoue jamais. Dieu tourne le mal contre lui-même par l'accomplissement de sa volonté irrévocable. Même le mal, Dieu peut saisir le mal et les tourner en bien. Ça, nous devons vraiment être réellement enracinés dans cette réalité. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas simplement quand il y a le bien, mais aussi quand il y a le mal. C'est là même que nous voyons la souveraineté de Dieu agir. Dieu peut tourner le mal en bien. Dans la situation actuelle, nous voyons, on voit sur Internet, théorie de complot. Ah non, ils ont fabriqué le virus. Ils veulent nous éliminer tous. C'est vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être faux. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être de l'action humaine. Mais nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous devons être sûrs d'une chose. Que ce soit l'action humaine, que le mal vienne par l'action de l'homme ou du diable, ce qui est sûr, notre Dieu est souverain. Il peut tourner le mal en bien. Il peut même laisser les choses arriver, mais sachant que le chemin est déjà préparé pour que tous ses enfants, tous ses élus, tous ceux-là qu'il a choisis, puisse être préservé et dans sa main bénie. L'action de Dieu, Dieu va utiliser la manipulation de la mère, c'est-à-dire Rebecca, et aussi la gourmandise d'Ésaü lui qui a écouté plus son estomac qui criait pour manger les lentilles et vendre son droit d'aînesse. Et aussi, il va utiliser Jacob, le marchand. Tous les trois, tous les quatre. Jacob, lui, il fait la marchandise, il négocie. La maman Rebecca, elle, elle est derrière, elle sait le plan de Dieu, elle essaie d'essayer de faire passer Jacob parce que c'est lui que Dieu a choisi. Isaac, passif, laisse faire, voit les sillons et il laisse faire. Il laisse couler. Papa cool. Il y a des papas cool aussi dans les familles. Et c'est pendant ces 3 semaines de vacances, j'ai vu que c'est pas facile. C'est pas facile, les enfants. Même petits, même pas 3 ans, 2 ans, 1 an, ils savent déjà manipuler, savent déjà qu'est-ce que maman veut, qu'est-ce que papa veut, et ils essayent. Quand ça va pas, ce papa, maman, il se réfugie derrière maman, en sachant que maman va dire non, laisse-le, faut pas le corriger, laisse-le, on est en vacances. C'est comme ça. Et là, nous voyons aussi typiquement dans cette famille que ça se passe pareil. C'est la famille humaine. Il y a toujours ceux, la maman, le papa, soit il prend les choses en main, il va à fond, il corrige quand il faut, soit il laisse aller, il laisse couler. De toute façon, ça ira. Mais Dieu va saisir tout ça. On n'a pas besoin de dire, de juger, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est ce qu'il fallait faire. Mais nous savons que Dieu va utiliser tous les 4 éléments pour accomplir sa volonté, c'est-à-dire le salut que nous avons aujourd'hui. Ce que Dieu peut résister, c'est lorsque nous prenons le risque de lutter contre Dieu. Si nous savons sa volonté et nous voulons maintenant, nous savons la volonté de Dieu, nous voulons lutter contre ça, on ne pourra pas. Acte 5, verset 38-39, Gamaliel dit au peuple, Gamaliel dit au Sanhédrin, ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Si Dieu a tracé sa volonté, la seule chose quand nous savons, c'est d'accompagner sa volonté. C'est le meilleur pour nous de dire, c'est ta volonté, j'accompagne ça. C'est ce que tu veux faire, gloire à ton nom. Si nous voulons nous opposer, nous risquons de lutter contre Dieu dans sa propre volonté. Et lutter contre Dieu, je pense que c'est dangereux. Voici ce que nous pouvons tirer comme application dans ce texte ce matin. La grâce, c'est quand la souveraineté de Dieu travaille pour rencontrer la responsabilité humaine. Christ nous attire à lui. Dieu n'avait aucunement besoin de conflit ou d'unité de la famille de Rebecca et Isaac pour réaliser sa volonté. Dieu ne nous pousse jamais aussi à pécher pour que sa volonté soit réalisée. Dieu ne demande pas de défenseurs. On ne peut pas défendre Dieu. Souvent, j'ai fait des erreurs en pensant que ouais, je vais défendre Dieu. On ne défend pas Dieu. Dieu est suffisamment puissant que personne, il n'a besoin de la défense de personne. Ce que nous pouvons faire, c'est dire, Seigneur, glorifie ton nom. C'est notre prière, glorifie ton nom, accomplis ta volonté, accompagne ta volonté avec puissance et avec autorité. La grâce de Dieu nous attire à Jésus pour notre salut, comme il l'a dit dans Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a, qui m'a envoyé, ne lui attire. Personne. Quelles que soient les méthodes de notre évangélisation, quelle que soit la puissance de notre évangélisation, si Dieu n'a pas attiré les hommes, personne ne viendra. Mais lorsque Dieu attire les hommes, les femmes, les enfants, l'Évangile révèle sa puissance, l'Évangile révèle sa gloire. C'est pourquoi chaque fois nous évangélisons, nous parlons de Dieu aux gens, à la famille, à ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas placé leur confiance en lui, rappelons-nous chaque fois que Dieu attire les hommes à lui. Jésus attire lui-même ceux qu'il veut sauver à lui. Même si nous devons faire l'effort d'évangéliser, on ne doit pas se croiser les bras en disant « Dieu attirera les hommes dans l'église et ils se convertiront ». Ça, c'est aussi le travail d'Isaac, la passivité. Dieu va les attirer, mais il veut aussi que nous soyons responsables. Quand en allant vers lui dans la prière, et que nous puissions planifier aussi vraiment des moments d'évangélisation, de porter l'évangile individuellement et collectivement en Église. Dieu attire afin que tous ceux qui vont placer leur confiance en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. La responsabilité encore est là. Dieu donne sa grâce, il attire les hommes, il prépare les cœurs, mais il donne aussi une responsabilité aux hommes, aux femmes, de décider de placer leur confiance en lui. C'est à eux, ce n'est pas à nous. Dieu les a attirés, Dieu a parlé dans leur cœur, c'est à eux maintenant de placer leur confiance en Christ. Les crises, deuxième élément que nous pouvons retirer dans ce texte, les crises familiales peuvent être des terreaux où les parents peuvent contribuer à favoriser la paix ou à creuser davantage les fossés de division. Vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes dans une église où vous avez des responsabilités. Si il y a des crises, le père de la famille qui a l'autorité, soit il va favoriser à envoyer la paix, soit il va encore creuser les fossés pour qu'il n'y ait pas la paix. Nous voyons cette histoire dans la famille, Isaac, au lieu d'aimer Jacob, malgré que Jacob est à côté d'Isaac et de Rebecca, il ne l'a pas fait. Il a continué à préférer son Jacob, son Ésaü, parce qu'il aime le gibier. Donc, je me mets à côté de Jacob, même s'il a tort, je reste à côté d'Ésaü. Je ne cherche pas à aller vers Jacob pour l'attirer, pour lui parler. Attention, vous devez vous aimer les uns les autres ensemble. C'est ça la famille. Maman Rebecca n'a pas fait autant. Elle a préféré son Jacob. Jacob, tu es pour moi. Et finalement, le fossé, les deux ont contribué à creuser le fossé. Et finalement, les deux enfants vont se parler comme des marchands dans une seule famille. L'autre a faim. Tu ne peux pas lui donner à manger gratuitement, ça devient de la marchandise. Parce qu'il y avait un fossé. Il n'y avait pas de paix entre les deux. Nous racontons aussi l'histoire d'Angleterre, du royaume d'Angleterre, entre William et Harry. C'est la même histoire. L'autre a su que d'office il est roi, et donc il se prépare en roi, et l'autre, au lieu d'être consolé, il y a eu toujours des problèmes entre les deux. Et cette famille aussi, actuellement, nous voyons comment la famille, publiquement, on sent que la famille n'est pas soudée, il y a une division. Même père, même mère, vous avez grandi ensemble dans le même sac utérine. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que nous aussi, dans la famille, dans nos communautés, cherchons surtout à faire la paix. Si nous voyons qu'il y a des Jacob et des Ésaü, ne préfère pas ton Jacob ou ton Ésaü et rester avec lui. Va chercher aussi à aimer ton Ésaü. Va chercher à aimer ton Jacob. Tout est pour toi. Tout est à Christ. Que ce soit Paul ou Apollos, que ce soit la vie ou la mort, tout est à Christ. Il n'y a rien à diviser. La justice de Dieu est toute entière. Par la suite, les deux hommes vont se réconcilier après 40 ans. Je pense que chacun va prendre son chemin, va vivre sa vie. Mais il y a eu une tension pendant 40 ans. Et finalement, la volonté de Dieu s'est accomplie. Le patriarche de la lignée de Jésus va venir par Jacob, qui a été transformé dans la suite et qui a permis une réconciliation avec son frère Ésaü. Mais tout cela pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le salut par la grâce. Amen. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Tenons ferme notre grâce. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est indépendant de ce que nous sommes. C'est indépendant de ce que nous mettons comme action. C'est eu par pure grâce. Dieu nous a aimés et il nous a sauvés. Apprenons à apprécier la grâce de Dieu, la justice de Dieu, et apprenons à aimer nos Ésaü et à aimer nos Jacob. Tout est à Christ. Nous allons terminer en lisant le Romains 9, verset 10 à 14. Romains 9, verset 10 à 14. Si quelqu'un l'a retrouvé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre le micro et lire très fort pour que ceux qui nous suivent par Zoom, via Zoom, puissent entendre. Romains 9, verset 10 à 14.
Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'action de Dieu subsiste là, sans dépendre des œufs et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là. Car, je lis le verset 15 aussi.
Oui, s'il vous plaît.
Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.
Amen. Mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je vais avoir compassion. Nous avons la compassion de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la justice de Dieu. Réjouissons-nous parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut que nous puissions porter du fruit à sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour cette parole que nous méditons, qui nous fait du bien parce que nous sommes tous ici de famille et nous savons que dans les familles, il peut y avoir des histoires comme ça, des histoires comme cela, Seigneur. Nous voulons simplement te demander une chose. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à unir. Apprends-nous à vivre dans la paix les uns avec les autres dans les familles. Seigneur, apaise les cœurs. Oui, nous voulons te demander que dans les familles, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité. Que ceux qui ont des enfants, Seigneur, ne contribuent pas à diviser les enfants par égoïsme. Que ceux qui ont des responsabilités ne contribuent pas à séparer, à diviser par égoïsme personnel. Seigneur, fais taire ces choses au milieu de nous. Enlève ces mauvaises pensées au milieu de nous. Permets que nous puissions aimer même nos Ésaü, même nos Jacob. Nous savons que chacun peut préférer l'un et l'autre que l'autre. Mais apprends-nous sincèrement pour l'unité commune, pour la réussite, Seigneur, de ton Église, pour qu'elle puisse porter du fruit, apprends-nous, Seigneur, à unir les uns avec les autres. Nous voulons te remettre notre Église. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir et de permettre, Seigneur, que ton amour soit un lien d'affection les uns pour les autres et que, Seigneur, le monde voit cet amour et cette unité et que tu puisses les attirer, que tu les attires à toi. Tu les attires, Seigneur, au milieu de nous, afin que nous puissions en prendre soin. Seigneur, nous voulons remettre nos faiblesses aussi dans ta grâce. Seigneur, nous savons que nous avons des faiblesses comme Isaac, de passivisme, de laisser faire. Pardonne-nous. Seigneur, nous pouvons être comme des Rebecca qui essayent de peut-être vouloir améliorer l'accomplissement de la volonté de Dieu. Permets-nous d'avoir simplement l'idée de réunir, de nous aimer les uns les autres. Seigneur, il peut y avoir des Jacob qui aiment négocier, qui aiment marchander. Seigneur, nous te demandons, Éternel, de voir ton amour plus que toute chose, de voir ton amour plus que le gain, de voir, Seigneur, ton Église qui grandit, qui avance plus que le gain personnel. Éternel, nous prions aussi pour des Ésaü, Seigneur, qui préfèrent manger que tenir ce qui est plus important. Le plus important, c'est la vie que tu nous as donnée en toi, notre foi en toi. Seigneur, ne permets pas que des Ésaü vendent leurs droits d'aînesse de vie éternelle avec le monde. Seigneur, ne permets pas, garde-les, Seigneur, garde leur foi, qu'ils ne vont pas dans le monde parce que simplement ils veulent s'amuser, ils veulent voir la vie, profiter de la vie du monde. D'une vie mondaine. Seigneur, garde leur foi, attire-les vers toi. Seigneur, ne les permets pas, oui, d'accepter et de vivre, d'aller vers le monde qui les attire. Seigneur, attire-les vers toi. Donne-les la force de résister à tout ce qui peut en eux les pousser vers d'autres choses que toi. Nous bénissons tous, Seigneur, nous bénissons en ton nom, au nom de Jésus, au nom du Fils Jésus, au nom du Saint-Esprit et au nom du Père, ton assemblée, ton Église. Garde ton Église, Seigneur, et permets qu'elle puisse accomplir ta volonté avec détermination et avec courage, dans la foi et dans la grâce. Au nom de Jésus. Amen.